Bienvenue à un deuxième épisode Fun de Moules Fritno. Aujourd'hui, on va parler de thèmes intéressants du football luxembourgeois. Je me dis l'été suivante. Une annulation de saison aidera financièrement les clubs de football luxembourgeois. Le football luxembourgeois, il a un système de transfert et de championnat complètement démodé. La règle du 7e luxembourgeois, c'est-à-dire de 7 premières licences sur la feuille de match, n'aide ni le football luxembourgeois, ni les jeunes luxembourgeois. Ceci sont des thèmes sur lesquels on peut beaucoup discuter. Aujourd'hui, on va faire ceci sous forme d'une table ronde, pas comme dans le premier épisode où on avait fait un interview avec Philippe Aguillard. Mes invités, et je suis très ravi de pouvoir les accueillir, sont d'un côté Paul Heinisch, 22 ans, étudiant en droit et capitaine de notre deuxième équipe. Et de l'autre côté, notre coach de l'équipe 1, Raphaël Duarte, 23 ans, et coach depuis janvier 2019. Oui, vous avez bien entendu. Il a 23 ans et il est coach d'un club de PH. Il est donc à ce jour le plus jeune coach qu'il n'ait jamais eu dans le football luxembourgeois.
Rentrons dans le vif du sujet. Quelle est la situation du football luxembourgeois par rapport au Covid? Quelles sont vos opinions?
Paul, qu'en penses-tu?
Tout d'abord, il s'agit d'une situation comme on l'a jamais eue auparavant et c'est clair qu'il n'y a pas de solution facile. Donc, effectivement, il y a ce fameux sondage qui a été réalisé par l'intermédiaire de la LFL. Donc, déjà, je trouve que la question initiale, reprise ou arrêt, est beaucoup trop simple. Comment peut-on dire qu'on est plutôt pour ou contre un arrêt de la saison alors qu'on ne sait pas vraiment quelles conséquences, implications cela va avoir? Pour l'instant, on ne saura dire comment un arrêt de la saison va se présenter. Donc, qui va être champion, qui joue la Coupe d'Europe, qui va descendre, voilà, donc ça reste un peu dans le flou. Après, il est logique que les différents clubs ont des différents intérêts, donc ceux qui jouent le haut de classement veulent sûrement continuer la saison, et surtout éviter une annulation, donc il sera forcément difficile d'arriver à un consensus. Et puis, les propos récents du président de la FLF, Paul Philippe, vont quand même plutôt vers la prise en considération du classement actuel en cas d'un arrêt de la saison. Donc, je le cite, hors des questions de faire monter plusieurs clubs sans descendant juste pour que tout le monde soit content. Donc, il en ressort que la FLF ne fera pas de cadeau pour les clubs.
Je ne suis pas d'accord avec la FLF et avec Paul Philippe, c'est quand il dit qu'il ne faut pas faire de cadeaux. Parce que la solidarité des clubs, on la voit avec le sondage de LFL, elle n'est pas donnée. Avec des commentaires ainsi, ça risque de ne pas arranger les choses. Moi, je me pose aussi la question, vous n'avez pas besoin de répondre, s'il y a des autres clubs qui seront concernés par une éventuelle descente, s'ils diraient la même chose.
Raphaël, ton opinion?
D'abord, je pense que la FLF l'a bien fait d'attendre et de ne rien décider précocement. Il faut attendre l'évolution du virus, car ce qui est vraiment important, c'est la santé des gens. Je pensais vraiment qu'ils allaient tout faire pour au moins finir la BGLI, si c'est possible, parce que l'UEFA a annoncé que ce sera compliqué d'intégrer les clubs dans les compétitions internationales si elles ne sont pas qualifiées par le chemin du championnat de cette saison. Mais bon, l'interview de Paul Philippe, il dit autre chose. Il a dit qu'il est sceptique sur le fait qu'on puisse reprendre. Et voilà, ces propos-là, ils vont dans une autre direction. Mais je comprends toutes les décisions, je pense qu'il faut encore attendre un peu et puis accepter toutes les décisions prises par les institutions responsables. C'est pas à nous de commenter ces décisions par respect vis-à-vis aux gens vulnérables et à toute la société, je pense.
Pour moi, une réalité qu'on ne peut pas nier, c'est qu'avec la crise corona, les clubs de foot luxembourgeois, ils sont dans de graves ennuis financiers. D'un côté, ils risquent de perdre des tranches, donc une part de leur sponsoring de cette saison, car les tranches de fin de saison, ils vont difficilement être payées. Et d'un autre côté, sur le long terme, les clubs risquent d'avoir, sur les prévisions, revoir leurs prévisions à la baisse, parce que les partenariats, ils ne vont plus être aussi élevés. D'un autre côté, on a Paul Philippe, qui dit que si après 2 semaines, on ne joue plus, et il y a déjà des problèmes financiers, Il faut poser la question sur le système. Moi, je dis que c'est un peu ignorer le fait que la principale ressource des clubs est le sponsoring, Et le sponsoring est lié au monde économique. Donc forcément, quand il y a des problèmes économiques, le foot, il a aussi des problèmes. Pour Dunkerque, le principal problème sont les contrats de louage. Qu'est-ce que tu en penses, Paul?
Bah là, pour venir au propos de Dunkerque, d'un côté, je le comprends aussi, hein, parce qu'il y a des clubs qui ont quand même, il y a des grands clubs en Belgique qui ont des moyens considérables, surtout des moyens financiers, et on a l'impression que eux, ils ont fait recours au contrat de louage service justement pour contourner toutes ces règles sociales, parce que comme tu as dit, le contrat de travail, il faut payer là, il faut payer des, il faut payer dans les cotisations et tout. Et donc les grands clubs, ils ont fait exprès, ils ont fait recours au contrat de louage service, donc pour contourner ça. Et donc là, oui, ils sont en difficulté. Donc il peut dire que ouais, c'est leur propre faute. Je le comprends. Après, pour les petits clubs, comme tu as dit. Il n'y a pas d'autre choix que de faire recours au contrat de louage de service parce que il n'y a pas de moyens financiers et surtout que beaucoup de gens ne sont pas des professionnels, ils travaillent à côté. Donc voilà, il n'y a pas d'autre choix. Et je pense que pour ces cas-là, pour les petits clubs, surtout pour les clubs en promotion d'honneur qui n'ont pas de contrat professionnel, ça c'est pas un grand problème parce que là, on peut suspendre les paiements, on attend la reprise de la saison. Donc. Je pense que ça concerne surtout les grands clubs en BG Ali qui ont fait exprès, qui voulaient contourner les règles qui sont en place. Donc, ouais, je suis pas en désaccord avec Dunkerque sur ce point-là.
Si je fais la remarque de Paul Philippe par rapport à la réalité, est-ce que tu as une opinion par rapport à ça, Paul?
Oui, c'est évident que c'est difficile pour les clubs, même après 2 semaines. C'est comme les clubs de foot aujourd'hui, c'est comme une entreprise. Hein. On voit aussi les entreprises ici au Luxembourg. Eux aussi, ils ont des difficultés après 2 semaines. Donc, c'est pareil pour les clubs de foot. Hein. On voit même à l'étranger, pour les grands clubs, c'est pareil. Donc, les clubs ont des coûts qui sont des coûts fixes qui sont considérables. Il y a les salaires, il y a tout un truc à côté, donc il y a d'un
Il y a aussi
côté, il y
les
a plus,
entraîneurs.
oui, les entraîneurs, les voilà. Et donc d'un côté, il y a plus les entrées des jours de match, les ventes des tickets. Et d'autre côté, on peut aussi penser qu'il y a beaucoup de sponsors qui sont dans l'incapacité de payer actuellement. Donc voilà, c'est pas évident. Et donc de dire que après, ça correspond plus à une réalité, je trouve ça. D'entendre ça de la part d'un président d'une fédération de foot qui doit être quand même parler dans l'intérêt des clubs, je ne comprends pas l'intérêt de dire ça. Parce que c'est clair que même après 2 semaines, ça peut être difficile pour des clubs de foot. Hein.
Je dis qu'on a assez parlé du thème par rapport au Covid. Moi, je veux que chacun se prenne une phrase, une solution et qu'il nous la dise. C'est quoi ta solution optimale?
Pour moi, franchement, la solution optimale, c'est de faire monter les 2 clubs qui sont actuellement en promotion d'honneur en haut de classement. On joue la saison à 16 l'année prochaine. Comme ça, il n'y a pas de perdant dans cette crise. Parce que ça aussi, imaginons les clubs qui sont en bas de classement en BG League, qui ont sûrement des contrats qui sont liés à la BG League. Donc, en cas de descente, ils vont perdre peut-être des joueurs ainsi que des sponsors. Donc là, franchement, je suppose que ces clubs sont très très mal quand ils entendent des propos comme ceux de Paul Philippe, quand il dit ouais, on va pas faire de cadeaux, donc ceux qui sont en train de descendre, ils vont descendre aussi en cas d'arrêt de la saison. Donc pour moi, ça c'est pas une solution juste et on sait dans une telle période de crise, il faut avoir un peu plus de solidarité parce qu'il parle lui-même, il parle de solidarité dans son interview, donc voilà.
Raphaël, ton point de vue?
Bah, je pense que d'abord, il faut encore attendre un peu. Et après, si la meilleure décision pour la santé, c'est d'arrêter, je ne trouve pas que ce serait juste de faire descendre les 2 derniers après 15 matchs. Il y a 15 sur 26 matchs. Et par exemple, en BG League, Mühlenbach et Rodange, ils sont à à 1 ou respectivement à 4 points, et je ne pense pas qu'ils seraient des justes descendants.
Qui va jouer alors la Coupe d'Europe?
Bah, dans l'optique, ce qui est proposé par Paul Philippe, de ce que le classement actuel sera le classement définitif en cas d'arrêt de la saison, bah, ce seront les clubs qui sont en haut de classement. Donc
Ouais,
Dudelange
voilà.
ne joue pas de Coupe d'Europe. Hein.
Ok.
Bah, ça c'est dans la logique des choses. Avec ses propos qu'il a maintenant, voilà, ça serait logique.
Je pense que Paul a raison. C'est logique d'après ce qu'il a dit dans l'interview, mais je pense qu'il y aura beaucoup de problèmes d'accepter cela du côté des clubs. D'un côté, Rodange Mühlenbach, mais aussi des clubs comme Dudelange qui vont sûrement dire qu'ils auraient encore pu arriver à une place européenne et que voilà. Je pense que ça va être très très compliqué tout ça.
Ma solution dans cette crise du corona, pour moi, il y a deux solutions. D'un, il y a l'hypothèse de la saison blanche. Donc, le championnat, il est annulé parce que pour moi, un championnat après 15 journées n'a aucune validité. Pour moi, un championnat ne peut qu'être valable après 26 journées où toutes les équipes ils ont joué à domicile et à l'extérieur contre les différents adversaires. Donc, s'il y a saison blanche, on reprend la saison comme on l'a pris en ce début de saison. Moi, je m'oppose un peu à l'opinion de Paul Philippe, où on essaie de jouer la saison jusqu'à la fin de la saison, et avec les places européennes qui vont être distribuées aux trois premiers, et on aura un déroulement normal. Si on a une saison blanche avec la Coupe d'Europe, moi, je propose la solution que les équipes qui ont joué cette saison en Coupe d'Europe, ils rejoueront aussi, mais que les gains qu'ils ont des subsides UEFA pour la participation, ils seront beaucoup plus solidairement redistribués à tous les clubs. Comme ça, tous les clubs, ils peuvent un peu profiter de la solidarité entre les clubs.
Assez parlé de la situation autour du corona. Passons maintenant au système de transfert. Paul, tu fais des études en droit. Est-ce que tu peux un peu expliquer le système de transfert au Luxembourg? Transfert définitif, transfert temporaire. Ça veut dire quoi en fait?
Bah, il faut savoir que c'est un système un peu particulier ici au Luxembourg. Une fois que tu as fait un transfert définitif, donc tu as changé ton club définitivement, tu dois t'es lié pendant 3 ans à ce nouveau club. Donc le nouveau club, il a les droits de transfert pendant 3 ans et toi, tu as que la possibilité de faire des transferts temporaires. Donc voilà, tu peux pas changer de club chaque année. Donc tu t'es vraiment lié à un club pendant 3 ans et la seule possibilité, c'est de faire un transfert temporaire.
Et surtout, aussi Raphaël, si on prend un joueur de l'étranger, il nous appartient pendant 3 ans, est-ce que ça peut pas être un argument négatif pour le football luxembourgeois, pour l'attractivité en fait du football luxembourgeois?
Oui, bien sûr. Un joueur qui vient de l'étranger et qui signe, disons, dans un club de promotion d'honneur, mais qui a comme objectif de jouer en BGL League, il doit faire confiance à son club. Que si après une saison ou après 2 saisons, il y a une offre, une bonne offre d'un club de BGL League, que le club le laisse partir. Parce que même s'il signe un contrat pour une année, le premier club où il a signé, il garde le droit de transfert du joueur pendant 3 années. Et je ne pense pas que c'est correct. Je pense que si le club et le joueur ils trouvent un accord pour de signer un contrat pour une année, pourquoi les droits de transfert ils doivent rester pendant 3 années auprès du premier club? Je ne trouve pas que c'est correct.
Pour moi, je trouve que ces statuts, ils ont été élaborés par des clubs. Et on voit la position, la force, position de force des clubs, on la voit tout de suite dans ces statuts. Et il n'y a aucun représentant de joueurs qui décide avec pour les statuts. Donc les joueurs, ils ne sont jamais demandés pour des statuts. C'est les clubs qui décident. Paul, qu'est-ce que tu en penses de cette discussion?
Bah pour moi, il y a une solution très simple. On met fin à cet article 32 des statuts de la FLF et on gère ça uniquement avec des contrats. Comme ça, le joueur sera libre de pouvoir négocier la durée de son contrat avec les clubs et en fin de contrat, il peut changer son club. On voit ça aussi dans les championnats étrangers où il n'y a pas ces statuts. Cela s'ajoute encore ce fameux mécanisme du barème qui complique encore plus la situation. À la fin de ces 3 ans, le nouveau club qui veut le jouer, le joueur, le club bénéficiaire, doit payer une indemnité au club cédant, alors que le joueur est en fin de contrat. Et surtout que ce mécanisme a été interdit sur le plan européen dans l'affaire Bosman, je ne comprends pas pourquoi on y tient sur le plan national. Donc, c'est il y a 25 ans que la Cour de justice de l'Union européenne a mis fin à ce paiement de barème d'indemnité en fin de contrat, au motif que c'était non conforme à la liberté de circulation des travailleurs. Et voilà, donc on voit qu'on est un peu démodé au plan national. Et bon, tout ce que je viens de dire permettait aussi d'instaurer un certain équilibre entre les pouvoirs du club et ceux du joueur. Actuellement, je trouve que les joueurs sont mal placés par rapport au club. Et donc, c'est que ça revient un peu au même qu'Emile vient de dire.
Moi, je peux donner un exemple de la vie de tous les jours. Parfois, il y a des joueurs qui viennent vers moi et ils disent que je suis qu'ils sont en fin de contrat. Mais en fait, ils sont en fin de contrat de leur contrat, mais leur droit de transfert, le club, il les a encore pour les 2 années suivantes. Donc, parfois, ça peut être difficile pour les joueurs de savoir où ils en sont de leur contrat et de leur situation de transfert. En fait, moi, on pourrait décider de dire de laisser le joueur dans notre club sans devoir renouveler son contrat, etc. Et de le bloquer totalement sans qu'il ait une chance de sortir de son contrat. On a beaucoup parlé maintenant du hors-terrain. Passons maintenant au terrain. 26 matchs de championnat, 2 ou 3 tours de coupe. Est-ce que Raphaël, cela suffit pour développer une équipe?
Oui, bon, les clubs de la première, deuxième et troisième division, eux, ils ont la Coupe FLF, ils ont la Coupe du Luxembourg et ils ont leur championnat. Ça, je le trouve très correct. Par contre, les équipes de BGL et de promotion d'honneur, eux, ils n'ont que 26 matchs de championnat et après, ils ont aussi voilà, quelques tours de la Coupe du Luxembourg. Donc, pourquoi pas créer une compétition supplémentaire comme une Coupe de la Ligue que pour les clubs de BGL et les promotions d'honneur. Par exemple, sous forme d'une phase de groupe pendant la première phase de championnat et puis des quarts de finale, etc. en deuxième phase de championnat. Même si ce seront que 3 matchs en première phase pour certains clubs, ça donnerait la possibilité aux entraîneurs de donner des opportunités à des joueurs qui ont peut-être moins joué en championnat. Voilà, je pense que le nombre de 26 matchs par saison, il est très bas. Hein, il est très bas.
Une autre question que je voulais te poser, est-ce que tu ne penses pas aussi que le problème de faire confiance à des jeunes joueurs ou de faire changer l'effectif, il est lié aussi un peu au limogeage des entraîneurs aussi. Parce que si on a 26 matchs et 2-3 tours de coupe, il est difficile de faire confiance à des nouveaux joueurs sur le seul base de feedback d'un premier tour de Coupe de Luxembourg contre une division inférieure. Comment tu vois cette chose?
Le nombre de limogeages d'entraîneurs, je pense que c'est pareil un peu partout dans le monde. Un entraîneur, il doit avoir des résultats, sinon, voilà, c'est compliqué. Peut-être un plus grand nombre de matchs donnerait aux entraîneurs la chance de faire un peu tourner l'effectif et d'essayer aussi d'autres solutions, oui. Parce que en championnat, les entraîneurs ne vont pas faire des expériments en disant parce qu'ils savent que leur place est au risque. Ça, c'est vrai. Oui.
Je trouve ça une très bonne idée, Raphaël. Et pour moi, je tiens à souligner le fait que la Coupe de la Ligue devrait se dérouler sous forme de phase de poule pour que les joueurs
ne jouent pas un tour et après ils sont déjà éliminés pour que vraiment les jeunes joueurs, ils sont assurés de jouer 2-3 matchs dans la Coupe de la Ligue ou les joueurs qui ne sont pas titulaires. Et pour un peu valoriser cette Coupe de la Ligue, pourquoi pas trouver un sponsor et mettre une somme que le club reçoit s'il gagne la Coupe de la Ligue. Je ne dis pas que la Coupe de la Ligue doit donner un ticket pour la Coupe d'Europe parce qu'on n'en a que 4, mais de motiver un peu avec un bonbon financier les clubs à prendre cette compétition au sérieux. Et surtout, je pense que pour les grands clubs de BGL, qui ont des effectifs importants. C'est aussi intéressant pour eux de faire jouer les joueurs qui sont à la touche, dû aussi au règlement.
Oui, et autre chose, imaginons un jeune luxembourgeois talentueux, il y en a beaucoup en BGA League, il n'a pas d'opportunité de jouer, par exemple au championnat, parce que l'entraîneur il fait confiance à d'autres joueurs. Imaginons ce cas-là, il n'a pas d'opportunité de montrer qu'il a vraiment la qualité pour jouer en championnat. Une coupe, une telle coupe lui donnerait la chance de se montrer et par après avoir des chances aussi en championnat. Et revenons sur le thème qu'on avait avant. Maintenant, imaginez un jeune luxembourgeois, il joue, je ne cite pas de nom, mais dans un club de BGA League, il n'a pas de chance en championnat. Il n'y a pas de coupe supplémentaire pour lui donner d'occasion. Et après, s'il veut aller en promotion d'honneur ou en première division ou je ne sais pas où, il est bloqué parce qu'il a, comme on a dit, il a la règle des 3 ans. Voilà, ça complique un peu la vie aux jeunes. Et après, il y a encore d'autres causes que peut-être on va parler par après, comme la loi des 7 luxembourgeois qui fait aussi que les clubs de BGL, ils ne veulent même pas laisser partir leurs jeunes. Mais au moins que, voilà, s'il y aurait une coupe supplémentaire, au moins là, peut-être ils auraient leur chance.
Paul, passons maintenant au senior reserve. C'est un sujet qui m'intéresse aussi. Alors, on a toujours la discussion des local players, donc des joueurs formés au club, qu'il n'y a plus vraiment les joueurs formés au club, ils ne restent plus dans leur club, que cette notion de local player, elle n'existe plus vraiment dans le foot généralement. Est-ce que toi, tu peux penser à une solution, peut-être une coupe, où les seniors réserves, ils jouent contre des équipes une. En tout cas, les seniors réserves des grandes, des deux premières divisions.
Oui, voilà, une coupe, ça serait une possibilité. Après, peut-être intégrer le championnat des deux équipes dans le championnat normal des premières équipes avec... adapter un peu les règlements qu'il y a, voilà. Mais ce serait très très intéressant d'avoir peut-être une comparaison entre les premières et les deuxième équipes.
Parce que moi, je ne sais pas si vous avez regardé la série de Netflix où Sunderland Till I Die, où il y a une coupe en Angleterre où les 3e et les 4e de ligue anglaise, ils jouent une coupe avec les U23, avec les clubs U23 anglais des deux premières divisions de U23, donc senior réserve dans notre cas, en Angleterre. Et ça fait une coupe qui ça s'appelle le Checkered Trade Trophy. Et il y a beaucoup de clubs qui adorent cette compétition. Elle est vachement reconnue en Angleterre et la finale, elle se déroule dans un stade Wembley archi comblé. Donc oui, ça serait une solution pour moi, ça serait de se faire la coupe FLF et d'intégrer les seniors réserves des deux plus grandes divisions et aussi de repasser à un format de phase de poule en coupe FLF. Et je pense que ce serait une super bonne idée pour rendre plus intéressant le football luxembourgeois.
Oui, et aussi l'attractivité. D'une deuxième équipe, comme ça tu peux dire ouais, tu peux dire aux jeunes reste chez nous, on a une deuxième équipe qui joue en coupe FLF, tu peux jouer contre les grandes équipes de la première division, donc il y a voilà, c'est aussi dans l'intérêt des jeunes et des deuxièmes équipes.
Et surtout pour les jeunes qui ont du mal à percer dans leur club, ça leur donne un peu une vitrine aussi pour trouver des équipes de première division, deuxième division, troisième division. Raphaël, comment tu vois, toi, notre proposition des seniors réserves? Je sais que tu es quand même attaché à ton équipe senior réserve. On joue à peu près le même système de jeu en équipe 1 qu'en équipe 2. Comment est-ce que toi, tu vois ce problème des seniors réserves?
Pour être sincère, je pense que intégrer les équipes réserves dans les championnats existants, voilà, pour les équipes 1, c'est compliqué. On peut en discuter, mais voilà, c'est compliqué. Je ne sais pas s'il y a la volonté de la part des clubs de le faire.
Après, voilà, cette idée, un peu comme en Angleterre, d'avoir cette coupe avec les équipes réserves des deux premières divisions, plus les équipes de division 1, 2 et 3, je trouve ça très intéressant. Vraiment, c'est une bonne idée de comparer un peu les joueurs par rapport aux premières divisions. Une très très bonne vitrine pour les joueurs, comme Paul a dit, très très bonne vitrine, parce qu'un joueur qui joue en équipe réserve les vendredis, il n'a pas forcément la chance de se montrer auprès des équipes de division 1. S'il joue contre eux en Coupe FLF, il a déjà cette chance-là. Donc je trouve ça intéressant. Ouais.
Donc pour conclure les débats, on peut dire que le système comme il est maintenant, on peut encore le changer et l'améliorer avec une Coupe de la Ligue et une Coupe FLF où on intègre les seniors réserves. Et je pense que ça ferait du mal à personne. Moi, personnellement, je suis allé voir la finale de la Coupe FLF l'année dernière où Craven jouait contre Bayler et moi, je trouvais que c'était un super événement. Ça faisait un peu l'ambiance des matchs de barrage que tout le monde adore. Et aussi une finale de Coupe de la Ligue, ça crée plus de finales, ça crée plus de matchs d'un jour où il y a quand même 1000 supporters. Et je pense que cela permet aussi aux clubs qui sont finalistes aussi de mieux se présenter. Et je pense que peut-être que dans la Coupe de la Ligue, il y aura encore plus de surprises que dans la Coupe du Luxembourg. Et pour certains clubs, c'est vraiment intéressant. Si on voit la finale de Coupe de la Ligue où Strasbourg joue contre Guingamp, bon, le match, il est quand même pas terrible si, pour ceux qui l'ont vu. Mais l'engouement qu'il y avait autour de ces deux clubs, il peut se passer des choses semblables au Luxembourg.
Ouais. Passons maintenant à la fameuse règle des sept première licence sur la feuille de match. Dans l'intro, j'avais dit que cette règle n'aide ni le football luxembourgeois ni les jeunes luxembourgeois. Raphaël, avant, t'avais parlé du rôle des jeunes luxembourgeois dans les clubs de BGL. Est-ce que tu peux clarifier un peu?
Oui, c'est un sujet très délicat. Ce concept des sept luxembourgeois, il est très important pour le football luxembourgeois d'un côté, parce que voilà, il y a un investissement dans les clubs de BGL et de promotion d'honneur qui devient de plus en plus grand, et sans cette règle-là, je pense que ouais, certains clubs ils allaient chercher peut-être encore plus de joueurs étrangers expérimentés, des ex-professionnels, parce qu'ils pensent que il y a cette tendance de penser que ces joueurs-là ils apportent plus de résultats. Donc de ce côté-là, la loi des 7 luxembourgeois, elle est positive. D'un autre côté, elle entraîne aussi une surenchère des joueurs luxembourgeois, parce que ce sont souvent des jeunes luxembourgeois qui jouent en BGL League et qui sont sous contrat dans des clubs de BGL League, disons, et qui auraient peut-être mieux de jouer encore une saison ou d'aller jouer une saison en promotion d'honneur ou en première division. Mais comme les clubs de BGL League, ils ont besoin d'eux pour les mettre sur le banc ou parfois même pour les mettre sur la tribune, pour après, quand il y a des blessés, quand il y a des suspendus, pour les mettre après sur le banc. Comme c'est le cas, il est pas très bien et c'est très très compliqué pour les clubs de promotion d'honneur et de première division d'aller les chercher. Ça c'est... Voilà. Mais après... Il faut aussi chercher le problème au fond et il faut se poser la question pourquoi les jeunes luxembourgeois alors ils ne jouent pas ou ne jouent pas beaucoup, parce qu'il y a aussi des exceptions, il y a des joueurs qui jouent, hein. Mais pourquoi beaucoup d'entre eux ne jouent pas? D'un côté, il y a des jeunes qui ont la qualité mais qu'on ne leur donne pas leur chance. Ça, je suis convaincu que c'est le cas. Mais de l'autre côté, il y a aussi des jeunes qui... ou simplement des joueurs luxembourgeois qui n'ont pas le niveau de certains étrangers. Et il faut se poser la question pourquoi, hein. Il faut chercher la raison, les causes dans la formation des jeunes ici au Luxembourg. C'est bien qu'il y a de plus en plus d'entraîneurs qui s'inscrivent dans les cours de l'FLF, dans les cours d'entraîneurs. C'est positif, ça donne de l'espoir pour le futur, pour que les jeunes joueurs ils soient mieux formés. Mais il reste d'autres problèmes, comme le fait que les championnats des jeunes, il n'y a que 20 matchs. Si on soustrait des matchs où les jeunes sont blessés, suspendus, en vacances même, les joueurs ils jouent peut-être 15 ou 16 matchs par saison et c'est un nombre largement insuffisant.
C'est un autre débat sur lequel j'aimerais bien parler dans un autre épisode. Je donne totalement raison sur le fait de pourquoi le niveau des Luxembourgeois, ça c'est aussi des raisons pourquoi ils sont que sur le banc, malheureusement. Pour moi, pour être très critique, pour jouer en PA, pour les jeunes luxembourgeois qui ont un bon niveau et qui sont dans les grands clubs ou dans les clubs de BGL, mais qui jouent pas souvent, c'est soit je décide de gagner moins d'argent et je joue au foot, soit je gagne plus d'argent et je suis sur le banc ou même en tribune en BGL. Et c'est des choix que les joueurs ils doivent faire. Dans d'autres termes, pour jouer au foot, les jeunes luxembourgeois, ils doivent décider de faire des sacrifices sur financiers, en fait.
Oui, peut-être faire des sacrifices financiers pendant encore une ou deux saisons en plus pour jouer encore plus, pour gagner de l'expérience et ensuite aller dans un club où on touche plus d'argent, mais avec un autre bagage. Et aussi, voilà, avec la possibilité de jouer tout de suite dans ces clubs-là. Parce que oui, c'est un club, on l'a fait.
Bien sûr, le sens sportif, tu as complètement raison, et aussi le sens financier. Après, on a parlé des effets négatifs du 7e luxembourgeois. Ça aussi, il y a bien sûr des effets positifs. Ça assure aux luxembourgeois qu'il y a 7 premières licences, joueurs qui sont nés au Luxembourg ou formés au Luxembourg, dans les équipes, ce qui est bon. Et surtout, Paul, tu peux nous raconter une histoire. Toi, à 16 ans, je suis peut-être parmi de ces fameux 7e luxembourgeois. Qu'est-ce que tu peux en dire?
Oui, moi sûrement, j'ai profité de cette règle-là. À cette époque-là, sûrement, je n'avais pas le niveau de jouer en BGL League. J'étais un jeune joueur qui n'avait pas de l'expérience à ce niveau-là. Et voilà, moi, je me suis retrouvé sur le banc parce qu'on avait beaucoup de blessés, des blessés luxembourgeois. Donc, j'ai fait ma première entrée en BGL League à l'âge de 16 ans. Alors que probablement sans cette règle-là, j'aurais pas été sur le banc. Donc, oui.
Et quel beau début en fait, tu joues contre la jeunesse.
Oui, quel beau début. Oui et non. J'ai joué devant 800 personnes à Esch dans un stade historique. Mais après, je suis vite revenu sur terre. Quand Ibrahimovic a marqué un but après 5 minutes, je voyais très très vite que je devais progresser encore beaucoup. Hein. Donc voilà.
Donc tout le monde, ça a des effets positifs, des effets négatifs. Comme pour les précédents points, c'est quoi pour vous une solution optimale par rapport aux luxembourgeois?
Sincèrement, je ne vois pas le football luxembourgeois sans cette règle-là. Parce que sans cette règle-là, comme j'ai dit auparavant, je vois le risque que beaucoup de clubs qui investissent beaucoup d'argent, qui vont jouer sans luxembourgeois ou avec très très peu de luxembourgeois. Parce que voilà, il y a cette tendance de penser que le joueur étranger, ex-professionnel, qu'il est plus fort que tous les joueurs luxembourgeois, même si parfois c'est pas le cas. Voilà, il y a cette tendance là et je vois pas le football luxembourgeois sans cette règle là pour moi.
Toi, Paul, t'es du même avis?
Ouais, je suis un peu du même avis parce que je pense que c'est très très risqué de libéraliser, on va dire, le foot luxembourgeois parce qu'on va faire l'a dit, et les clubs avec les grands budgets. Ils vont sûrement aller chercher des ex-professionnels ou des professionnels venant d'étrangers. Donc c'est un pari très risqué de vouloir abandonner cette règle-là. Donc je pense pour l'instant, ça c'est probablement c'est la solution la mieux adaptée. Donc comme Raphaël a dit avant, il faut peut-être travailler dans les équipes jeunes pour avoir des meilleurs débouchés.
Si maintenant on vient à la fin de notre épisode, on voit qu'on a beaucoup de thèmes à discuter et c'est vraiment très intéressant de vous écouter par rapport à ce thème. Moi je vous dis vraiment merci en avance. Et si chacun de vous ait encore un thème qui l'énerve un peu ou pour lequel il peut plaider en fait, Ce serait quoi, Paul, la plaidoirie, toi, comme étudiant en droit, tu dois être fort là-dedans.
Oui, comme j'ai déjà dit avant, pour moi, les statuts d'un VLF, ils sont très, très démodés. Ils ne correspondent plus à une réalité aujourd'hui dans le marché du foot. Je suis tout à fait d'accord qu'il faut avoir un cadre statutaire, mais qui doit être quand même minimal. Et après, il faut faire place à la liberté contractuelle, donner un peu plus de puissance, de poids aux joueurs. Et voilà, arrêter avec tous ces contraintes, avec ces barèmes, avec ces règles qui servent à personne. Donc voilà, moi je mon mot final, peut-être, ça peut être venant à la liberté contractuelle et que les joueurs ils peuvent négocier leur contrat sans être liés à des par des barèmes ou par des règles qui voilà, la fameuse règle de 3 ans là.
Oui, pour moi, il y a beaucoup de règles qui ne correspondent plus à la réalité et plus à au temps moderne, disons. C'est là que Paul il a dit avec les 3 ans, oui, où on appartient à un club après un transfert. Ça, déjà, c'est un bon point. Après, pourquoi pas aussi réfléchir sur la règle des 5 remplaçants. Je comprends à 100% l'origine de cette règle, parce qu'on est dans le foot d'amateur et pourquoi prendre 7 remplaçants et faire rentrer que 3, les 4 autres, on leur vole la possibilité de rester le dimanche avec leur famille. Ok, je comprends, mais je comprends absolument le raisonnement. Mais je ne pense pas que ça correspond encore à la réalité du football luxembourgeois, parce que au moins en BG League et en promotion d'honneur, les investissements ils sont tellement grands, et je trouve que le foot il a quand même une certaine importance, et le nombre de 5 remplaçants c'est insuffisant à mon avis. Si ouais, la plupart des entraîneurs ils ne prennent pas de risques, ils prennent déjà un deuxième gardien en match. Après, il faut sûrement aussi un défenseur. Normalement, ou en tout cas souvent, celui-là, il ne rentre pas dans le match. Et après, il reste donc 3 joueurs pour rentrer. Donc le coach, il sait déjà avant le match qui sont les 3 joueurs qui vont rentrer dans le match. Puis, pendant le match, ça rend les choses compliqué aux entraîneurs pour changer, par exemple, le système ou pour réagir à la mauvaise forme d'un joueur. Parce qu'il n'y a que 3 types, que 3 profils, ou 4, pardon, avec les défenseurs, 4 profils qu'il peut faire rentrer. Et pourquoi pas avoir 7 remplaçants et disons que sur les 2 remplaçants qu'on additionne, un des deux il doit être issu de la formation du propre club, par exemple. Ça donne aussi la possibilité à un jeune qui a joué le vendredi en 2 ou le samedi en junior d'aller au match. Et si le score il est favorable, l'entraîneur peut le faire rentrer et gagner un peu de l'expérience. Mais bon, ce sont des idées. Ouais, là on devrait en discuter. Mais en tout cas, les 5 remplaçants, je ne pense pas que dans les 2 premières divisions, ça soit encore. Ouais, que ça correspond encore à la réalité du football.
C'est un avis intéressant que j'ai rarement entendu par un coach au Luxembourg. Pour moi, je tiens juste à revenir à notre premier point du débat, le foot dans la crise Corona. Moi, je tiens à appeler au club de rester solidaire, de travailler ensemble avec la FLF pour trouver une solution juste, le plus juste possible, qui correspond quand même à une réalité sportive. Et pour moi, le classement, prendre un classement après 15 journées, pour moi, n'a pas de valeur sportive.
Ceci était le deuxième épisode Fun de Mulesfredno. J'espère que ça vous a intéressé et que vous avez aussi votre opinion sur les différents thèmes qu'on a discutés. Si vous avez des commentaires ou des solutions à proposer, N'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux sociaux. Je souhaite de tout cœur qu'on se retrouve bientôt sur les terrains de football luxembourgeois.